des invités bien présents dans ce studio. Tout d'abord, Guillaume Cuchet, bonjour. Vous êtes maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Lille 3 et à l'Institut d'études politiques, et vous publiez un ouvrage savant, érudit, Les voies d'outre-tombe, table tournante, spiritisme et société au XIXe siècle. Vous nous parlez, Guillaume Cuchet, d'un temps que nous n'avons pas connu, car nous sommes bien vivants, le XIXe siècle, et plus précisément la mi-temps est du XIXe siècle, où un certain nombre d'esprits s'intéressaient aux esprits, notamment Allan Kardec, le fondateur du mouvement, une époque où Lichtenberg, un philosophe allemand, pouvait dire « Viendra un temps où les hommes seront si éclairés qu'ils ne croiront plus qu'aux revenants ». Et vous nous rappelez par exemple que le spiritisme est aujourd'hui encore la seconde religion au Brésil.
La seconde, je ne sais pas, mais en tout cas, une région importante. Mais c'est vrai que je me suis intéressé à ce mouvement qui est né aux États-Unis. C'est même probablement l'un des tout premiers américanismes de la culture européenne et qui a prospéré sur place entre 1848 et 1852, grosso modo, puis qui a franchi l'Atlantique. On peut le suivre quasiment par bateau au jour le jour et qui est arrivé en Europe dans le port de Brême, qui était le grand port d'émigration à l'époque vers l'outre-Atlantique, et ensuite qui a donné lieu à un phénomène de mode autour de cette pratique des tables successivement tournantes et parlantes dans toute l'Europe pendant 18 mois. Tout le monde a fait tourner les tables, de Napoléon III à la reine Victoria.
En passant évidemment par Victor Hugo. À côté de vous se trouve Jacques Pécade, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président fondateur du Cercle Spirit Allan Kardec. Vous êtes donc un disciple d'Allan Kardec, ce fondateur français du spiritisme. Et puis enfin, Stéphane Alix, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes président fondateur de l'INRES, l'Institut National de Recherche sur les Expériences Extraordinaires. Et vous avez publié « La mort n'est pas une terre étrangère » où vous racontez votre proximité avec la mort, Stéphane Alix. Vous étiez journaliste d'investigation. Comment avez-vous été conduit à écrire cet ouvrage ?
Bah écoutez, comme tout le monde, j'étais immortel, c'est-à-dire que la mort ne faisait pas partie de mon existence. Et puis effectivement, à 33 ans, en Afghanistan, dans une mission de reportage, avec mon frère, j'ai assisté à sa mort, à son accident. Et j'ai été confronté à un âge où théoriquement on ne l'est pas, enfin la plupart d'entre nous, heureusement, ne le sont pas, au départ de quelqu'un de proche. Et ça a fait jaillir en moi des questions vertigineuses, qui sont les questions que l'humanité se pose depuis sans doute des millénaires. Et j'ai voulu, avec les outils qui étaient les miens, à savoir les outils d'investigation du journaliste, j'ai voulu enquêter sur ce que l'on sait aujourd'hui de la mort, de la conscience, de la vie après la mort. Est-ce que tout ça est sérieux? Est-ce que ce n'est que des farfelus qui s'y intéressent? Ou est-ce qu'il y a des scientifiques qui le font? Et je n'ai été que de surprise en surprise.
Alors, vous avez également une revue qui s'intitule « L'inexploré ». En tant que journaliste d'investigation, aujourd'hui, puisque vous considérez que vous êtes en quelque sorte neutre face au phénomène que vous décrivez, quelles sont les choses que vous avez découvertes?
En deux mots, on est à une période charnière aujourd'hui, une période charnière qui a déjà amorcé ce bouleversement il y a quelques décennies. Beaucoup de choses sont en train de changer dans notre façon de percevoir la réalité. La physique quantique a déjà ébranlé le socle de nos certitudes il y a presque un siècle aujourd'hui, et ça touche aujourd'hui d'autres domaines de la médecine, de la science, de la biologie. Donc j'ai voulu, avec les outils de l'investigation journalistique, me pencher sur ce qu'on appelle un changement de paradigme, c'est-à-dire ce changement de la représentation de notre réalité. Et ça, pour un journaliste, c'est extrêmement excitant parce que vous rencontrez des chercheurs dans plein de domaines différents qui se posent ces questions-là, qui essaient de s'interroger sur ce qu'on appelle en science des anomalies, des choses qui ne devraient pas se produire et qui pourtant se produisent.
Donnez-nous un exemple.
Un exemple, c'est par exemple les expériences de mort imminente, des choses qui se produisent, sans doute certains de vos auditeurs en ont entendu parler, des gens qui, en arrêt cardiaque, disent être sortis de leur corps, avoir observé la situation depuis le dessus. Voilà une expérience qui, a priori, est amalgamée à une sorte d'hallucination. On se dit que ces gens-là ont eu un problème au cerveau, etc. Quand on commence à s'intéresser précisément à ça, à s'apercevoir si, effectivement, ce que les gens décrivent, par exemple, peut être vérifié, on s'aperçoit que c'est le cas. Si on essaie de questionner des médecins sur l'occurrence de ces expériences, on s'aperçoit que les explications conventionnelles, par exemple, un problème d'oxygénation du cerveau, par exemple, des médicaments, la fièvre ou je ne sais quoi, n'expliquent pas ces expériences. Donc, on est là face à une vraie question. qu'il faut avoir le courage de regarder en face.
Alors, ce qui est intéressant, Stéphane Alix, c'est que vous dites que les choses bougent parce que la science évolue. Et si on reprend l'histoire du mouvement spirit tel que le raconte Guillaume Cuchet dans Les Voix d'Outre-Tombe, l'ouvrage que vous venez de publier, eh bien, c'était à une époque où la science devenait en quelque sorte une religion, le positivisme, où on considérait que les choses devaient être rationnelles, autrement dit au 19e siècle, que le spiritisme prend son essor avec un homme en France, Allan Kardec. Allan Kardec, ça n'est pas son vrai nom, mais ça n'est pas pour autant un pseudonyme, puisque cet homme considère qu'il est la réincarnation d'un druide breton.
Oui, alors c'est un Lyonnais, effectivement, mais Lyon est un peu la Mecque de tous les ésotérismes français du 19e siècle. C'est assez curieux. D'ailleurs, il y a un écosystème spirituel un peu particulier. Et Kardec, il n'est pas le seul. Hein. Il y a toute une nébuleuse de dirigeants du spiritisme, et c'est lui qui va fonder le mouvement le plus important et qui va à la fois lui donner son nom, spiritisme, 1857, dans ce qui va être la Bible du mouvement jusqu'à nos jours, qui est le Livre des Esprits, et qui va forger une doctrine, faire la synthèse d'un certain nombre de matériaux antérieurs, tout en créant un mouvement qui va avoir une diffusion très importante dans les villes, dans l'espace urbain principalement, parce que ça passe beaucoup moins dans les campagnes, où la religion, qui a elle-même un discours constitué sur la mort et qui occupe solidement le terrain, empêche au fond le mouvement de trop se répandre dans les campagnes. Il y a là, personne n'a très envie de fabriquer délibérément des revenants dans les campagnes. Hein. Il y a un type de rapport aux morts qui n'est pas très compatible avec ce que proposent Kardec et ses amis à ce moment-là.
Alors en fait, il y a d'abord une première vague de tables tournantes et d'esprits frappeurs qui nous vient des États-Unis. Celle-ci est considérée comme une mode. L'ambition d'Allan Kardec est tout autre, puisque lui se considère comme le fondateur d'une religion et le fondateur d'une philosophie.
Alors, il dit plutôt philosophie que religion. Il brasse assez large. Il est très prudent dans ses rapports avec l'Église catholique pour ne pas mettre les gens dans la position d'avoir à choisir trop tôt entre leur religion sociologique et leur nouvelle conviction spirite. Donc il présente ça comme une espèce de croyance secondaire, transversale, susceptible de s'accommoder de toutes les religions et de toutes les philosophies. Et ça se déroule dans un contexte, au fond, où il y a beaucoup d'éléments un peu flottants sur le plan philosophique et religieux. Il y a des gens qui sont en train de se brouiller avec la religion traditionnelle et d'en sortir, et pour qui le spiritisme fonctionne comme une étape, au fond, dans un chemin de sortie. Il y a des gens qui reviennent à la religion en arrivant d'une situation d'incrédulité et qui, ça m'intéresse d'entendre monsieur, qui ont été souvent remis sur orbite spirituelle par un deuil, en fait. C'est le religieux fait retour par la mort.
Donc, c'est ce qu'expliquait effectivement Stéphane Alix pour son cas personnel. Jacques Pécat, vous êtes l'un des disciples contemporains d'Allan Kardec. Qu'est-ce que ça signifie de se situer aujourd'hui dans le sillage du fondateur du spiritisme ?
Il faut déjà remettre Allan Kardec dans son contexte. Il sortait en fait de la foi et de la croyance, et son but, au travers de ce qu'il a étudié, de phénomènes d'abord spontanés, puis de phénomènes provoqués, au travers de médiums qui peuvent développer leurs facultés, et bien de prouver que la mort peut se manifester, que les esprits sont bien les âmes des décédés qui continuent à vivre, qui peuvent s'exprimer au travers d'un médium. Et là, ce n'a plus été une démarche de croire ou de ne pas croire, mais de raison, de démonstration. Et il a tenté de faire la preuve, il a fait la preuve, selon lui, selon nous, spirites d'aujourd'hui, eh bien, que les esprits peuvent se manifester de façon intelligente, intelligible et cohérente au travers de personnalités particulièrement sensibles qu'on appelle médiums. Mais ces médiums, il faut aussi savoir les définir, définir cette sensibilité et savoir qu'il y a nécessité à un développement progressif pour que le médium devienne vraiment opérationnel et fiable, contrairement à ce qu'on peut voir beaucoup aujourd'hui de médiums improvisés qui, bien souvent, croient communiquer avec les esprits, mais ne font que communiquer avec eux-mêmes ou avec leur propre subconscient.
Est-ce que vous vous définiriez comme un médium, Jacques Pécat ?
Moi-même, je ne le suis pas. Je n'ai pas de sensibilité particulière.
Ça veut dire que vous ne communiquez pas avec les morts ?
Communiquer avec les morts ne signifie pas essentiellement être médium, mais être participant autour d'un médium, puisque un médium seul ne peut assurer une séance spirit sans danger. Et il faut des assistants autour. Déjà, dans un premier temps, il faut des assistants pour confirmer ou infirmer le message dans son authenticité. Il faut donc des observateurs. Le spiritisme, ça a toujours été cela. Allan Kardec lui-même n'était pas médium, mais il a étudié les médiums et les messages reçus par ces mêmes médiums.
Vous dites sans danger, parce que selon vous, le spiritisme comporterait des dangers ?
Ah, nous savons d'expérience qu'il y a des dangers, parce qu'il y a des natures spirituelles tout à fait différentes les unes des autres, qui peuvent même conférer à la méchanceté, à la brutalité, comme on le voit sur Terre, puisque les esprits ne sont que des humains désincarnés. Et au travers de cela, il peut y avoir des phénomènes obsessionnels, des phénomènes dits même de possession, où certains médiums à transe, certains médiums à incorporation, eh bien, peuvent se trouver sous l'emprise d'esprits malsains, mal intentionnés, et perdre leur repère, perdre maîtrise d'eux-mêmes, être obnubilés par un esprit extérieur.
Stéphane Alix.
Écoutez, moi, sur cette question des médiums, je me suis interrogé. J'ai découvert, dans le cadre de la recherche de mon livre « La mort des personnes étrangères », je me suis intéressé à la cas du médiumnité. Voilà des gens qui prétendent communiquer avec l'au-delà. Ben, je me suis dit, en fait, ça va être assez simple de tester ça. Voilà des gens qui disent obtenir des informations de la part de personnes défuntes. C'est comme si vous, on ne s'est jamais croisé, vous commenciez à me sortir aujourd'hui 30 ou 40 informations liées, par exemple, à mon frère ou à une autre personne défunte. Eh bien, on va tester ça. Il y a des chercheurs, notamment Gary Schwartz ou Julie Bechtel aux États-Unis, qui ont fait ce type de recherche. Il s'agit de mettre en évidence quoi, la façon dont les informations données par le médium peuvent être obtenues. Est-ce qu'elles sont obtenues de moyens conventionnels ? Alors, moyen conventionnel, c'est éventuellement que le médium soit déjà au courant de ces informations-là, les obtiennent par Internet ou par d'autres moyens conventionnels, les obtiennent par la tricherie. Alors après, on peut rentrer dans des choses plus subtiles comme ce qu'on appelle la lecture à froid. C'est-à-dire que vous êtes face à quelqu'un, vous ne dites pratiquement rien, mais ce quelqu'un va être capable, de façon assez subtile, de déceler dans vos micro-réactions, s'il est sur la bonne voie, en vous disant « Tiens, j'ai l'impression de parler à une femme ou à un homme », il va être capable comme ça de construire quelque chose. Donc en fait, moi j'ai fait une expérience très simple, qui était en fait la réplication d'une expérience américaine. J'ai placé un médium, enfin j'ai demandé à plusieurs médiums d'y participer, ils ont accepté. Je place un médium dans une pièce et un sujet, c'est-à-dire quelqu'un qui a perdu un défunt récemment, dans une autre pièce. Et là, je demande au médium de se connecter à l'esprit du défunt et de commencer à me donner des informations. Et j'enregistre tout et ensuite je fais la retranscription et je note l'acuité et la précision des informations. Et là, j'ai eu la grande surprise de découvrir des médiums qui, sans aucune hésitation, commençaient à me parler d'une identité, d'une personne précise, d'un défunt précis, en me donnant des circonstances précises du décès, des détails de la vie, enfin, quelque chose qui, avec l'accumulation, ne peuvent pas s'expliquer par le hasard. Et en fait, pour vous faire ça très court, mais tous les détails sont dans mon livre, pour vous faire très court, il reste en fait deux options pour expliquer ça. Deux options qui, en soi, sont toutes les deux extraordinaires. Soit le médium, d'une manière ou d'une autre, aurait accès d'une façon non conventionnel à l'esprit du patient, enfin de la personne qui est en face de lui. On parle de télépathie, on parle de capacité d'obtenir ces informations de façon extrasensorielle. Soit, véritablement, il y a un défunt qui est à côté du médium et qui lui parle. Mais voilà, si on veut rester vraiment très honnête intellectuellement, c'est la conclusion à laquelle j'ai été forcé d'arriver. On ne peut se satisfaire que de ces deux explications.
Guillaume Cuchet, d'ailleurs, vous insistez beaucoup dans votre livre « Les voies d'outre-tombe » sur le fait que le mouvement spirit s'accompagne d'un autre rapport à la mort. Vous parlez par exemple de la mort des jeunes enfants qui pendant très longtemps a été considérée comme un non-événement et au XIXe siècle est considérée comme un drame, à la manière de ce qu'elle est considérée aujourd'hui. Et vous dites finalement que c'est à la faveur de ce nouveau rapport à la mort que le spiritisme prend son essor.
Oui, je pense que c'est un élément du contexte très important et qu'il faut essayer de cerner, c'est qu'on est dans une situation un peu de transition où on a encore des taux de mortalité infantile et juvénile qui sont très élevés, de plus supérieurs à 200 pour 1000 pour la mortalité infantile. Donc perdre un enfant est un accident relativement fréquent, toutes les familles ou presque ont connu ces genres d'événements, mais déjà, en particulier les gens qui s'intéressent au spiritisme, sont affectivement des modernes. C'est-à-dire ce sont des gens qui nous ressemblent déjà à bien des égards, qui ont le même type de rapport à l'enfance et qui vont se mettre à vivre ces accidents encore relativement fréquents avec une intensité d'expérience bien supérieure à celle qui prévalait autrefois. Autrement dit, vous avez la rencontre, là, à mon avis, d'un régime démographique traditionnel encore très dur et très éprouvant, avec une sensibilité très moderne qui n'est plus du tout équipée idéologiquement et mentalement pour se cuirasser et traverser ce genre d'épreuve inévitable, puisqu'au fond, la mortalité infantile dans nos contrées a disparu après la Seconde Guerre mondiale. Elle a été divisée par 10 en 30 ans. Donc aujourd'hui, perdre un enfant, c'est un événement rarissime, c'est un cataclysme. Mais au milieu du 19e siècle, on le vit déjà comme nous aujourd'hui, mais c'est un événement courant. Le plus célèbre étant Victor Hugo, évidemment, qui se convertit à l'émotion quand Léopoldine lui remonte par le pied de la table. Et à ce moment-là, crac, lui qui était un peu sceptique au départ, plonge en table tournante.
Et devient effectivement l'une des figures les plus connues probablement de ce mouvement donc spirit du 19e siècle. Une des preuves d'ailleurs que l'esprit existe, c'est le sourire. Stéphane Escher.
Service public, Guillaume Erner.
Des kilos d'emmerdement, la nuit est tombée dedans. Tellement de fois, c'était dur mais pourtant. Tantôt seul, au coin du lit parfois, je t'ai vu sourire, je t'ai vu sourire, je t'ai vu déserter une armée de manchots, je t'ai vu leur dire non et que tu avais raison, à toi tu les aimais vraiment. J'aimais vraiment et je les ai vus sourire.
Du Seuil de Stéphane Alix, président fondateur de l'INRES, Institut national de recherche sur les expériences extraordinaires, éditeur de la revue trimestrielle Inexplorée, et Jacques Pécat, président fondateur du Cercle Spirit Allan Kardec. Jacques Pécat, vous devez, évidemment, lorsque vous expliquez quelles sont les activités du Cercle Spirit Allan Kardec, avoir à répondre au scepticisme très, très largement dominant, un certain nombre de critiques de ces phénomènes irrationalistes. Est-ce que vous avez eu, vous, des preuves visuelles? Est-ce que vous avez rencontré tous ces phénomènes?
Alors, des preuves de toutes sortes, il en existe en spiritisme quand on a affaire à un bon médium, dans la mesure où les esprits qui se manifestent parviennent à s'identifier, à donner des preuves de leur identité en évoquant éventuellement des éléments qu'ils ont vécu sur Terre et que le médium ne connaît pas. Et puis, il y a aussi des phénomènes plus physiques, comme des phénomènes d'apparition. Et
alors ça, par exemple, vous en avez vu, parce que, évidemment, alors, ça fait sourire. C'est, on se souvient, quand on était enfant, on essayait de faire tourner les tables et on jouait à se faire peur.
J'ai assisté une fois à un phénomène d'apparition totale d'un personnage, et c'est un peu d'ailleurs ce qui a entraîné toute cette aventure. C'était en 1974, et dans une forêt, je roulais sur une route enneigée avec mon compagnon de travail Michel Pantin, qui s'est avéré être un excellent médium. Et traversant la forêt à vitesse réduite, nous avons vu sur le bas de côté un vagabond qui avait l'air de sortir un peu d'une autre époque. Quand nous sommes passés devant lui, nous sommes retournés, nos regards se sont croisés. Il avait un regard très étrange, très inquiétant même. Et il était physiquement tout à fait existant. Ce personnage nous a intrigués. Rapidement, je me suis arrêté pour faire demi-tour et puis plus rien. Et nous avons comparé avec Michel Pantin, mon compagnon à cette époque de travail, eh bien, nos témoignages, et nous sommes rendus compte que nous avions vu exactement la même chose, le même personnage, bien physique, bien réel, et qu'il avait disparu puisqu'il n'y avait pas de traces dans la neige. Et donc ça a été ce cas, un événement parmi d'autres qui nous a incités à étudier le sujet, et ensuite à découvrir Allan Kardec, à découvrir que ces phénomènes avaient toujours existé. Et cela nous a entraîné beaucoup plus loin après, puisque Michel Pantin s'est avéré être un excellent médium, notamment à écriture automatique, incorporation et clairvoyante. Et nous avons travaillé ensuite, depuis 38 ans, sur ces phénomènes, sur le développement de la médiumnité et sur la communication avec les esprits.
Stéphane Alix, vous aussi, vous avez à la fois rassemblé ces témoignages, vous êtes confronté évidemment là aussi au scepticisme de vos contemporains. Qu'est-ce qui, pour vous, vous semble en quelque sorte constituer des preuves tangibles de ces phénomènes?
Moi, il y a deux aspects. Il y a d'une part ce que j'évoquais tout à l'heure, à savoir les expériences scientifiques qui ont pu être menées pour tester les capacités médiumniques, les recherches médicales qui sont faites sur la conscience. Je parlais des expériences de mort imminente, par exemple, qui donnent des indications assez impressionnantes sur ce que pourrait être la conscience. Mais à côté de ça, il y a quelque chose qui, pour moi, est vraiment le socle de mon travail, déjà en tant que journaliste, et puis au-delà de ça, au sein de l'INRES aujourd'hui, ce sont les témoignages humains. Et je pense que derrière ce micro, il y a beaucoup d'auditeurs qui vivent, eux, de façon isolée ou de façon peut-être plus facilement, des expériences de cette nature, des expériences de contact spontané. On a fait une étude clinique en 2009 qui a été publiée aux éditions d'Uno, qui laisse indiquer qu'à peu près 50% des gens qui vivent une situation de deuil ont des contacts spontanés avec un défunt, de manière plus ou moins tangible.
Est-ce que ça ne s'explique pas par des raisons d'ordre psychologique?
Alors justement, la meilleure question à poser, il faut la poser à un psychologue et à un psychiatre. Et effectivement, les mécanismes de compensation qu'on peut rencontrer dans des situations tragiques, de deuil, de souffrance, n'expliquent pas tout. Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ça reste un peu confus. Mais effectivement, la première raison et la première indication, c'est d'aller voir un psychiatre et lui demander, vous êtes habitué à travailler avec des personnes en deuil. Est-ce que ce type d'hallucination peut être explicable par ça? Parfois, oui. Mais parfois, on a des choses qui sont observées par plusieurs personnes. Je prends le cas d'une histoire qui m'a été racontée il y a quelque temps, où un papa attendait son fils qui devait rentrer de soirée. Son fils rentre vers minuit. Le papa était dans un état un peu endormi dans son fauteuil. Il se lève, il dit à son fils « Bonne nuit, t'es rentré un peu tard ». Puis le fils lui dit « Papa, je vais bien, papa, je vais bien ». Et puis le fils va se coucher. Une demi-heure après, les pompiers sonnent à la porte et disent « Monsieur, on vient de vous annoncer que votre fils est mort il y a 2 heures ». Voilà, le papa a vu son fils. Est-ce que c'est une hallucination? Il n'était pas au courant que son fils était décédé à cette époque-là. Et des cas comme ça, ce n'est pas des centaines et des milliers, c'est des dizaines de milliers dont on est au courant.
Stéphane Alix, vous, c'est votre quotidien d'enquêter sur ces phénomènes. Thomas Chauvineau, c'était la première fois qu'il se lançait dans ce type d'opération. Il n'est pas revenu. On ne sait pas s'il a été retenu par un fantôme ou un revenant. En tout cas, il est allé rencontrer François et Véronique Geoffroy, qui ont acheté un château en 2009. Lui est agriculteur, elle est docteur en histoire. Assez rapidement, ils ont assisté à des phénomènes étranges, tout comme leurs enfants, tout comme d'autres personnes employées sur le chantier du château. Thomas Chauvineau est allé visiter le château de Fougeray, le long de la Vienne, dans le Poitou.
Avant d'arriver là, on n'était pas du tout enclin à ce genre d'histoire. Pas du tout.
Oui, on essuie les pieds, malgré tout.
Ah oui, quand même. Donc là, on est dans l'entrée principale du château. Donc vous voyez, c'est un château néo-gothique qui a été redécoré sous le Second Empire. Et dans cette entrée, il devait être 5 heures de l'après-midi, il n'était pas très tard, j'ai vu une silhouette traverser, passer du salon gothique à ce salon. Et petit à petit, on a commencé à s'en parler longtemps après tous ces phénomènes. C'est-à-dire qu'au début, François a vécu des choses de son côté, moi de mon côté, mes enfants de leur côté.
François, c'est votre mari?
Oui.
Mais c'est-à-dire que personne ne le disait?
Non, on ne se disait pas. Par contre, où vraiment j'ai eu des preuves par neuf, ou quasi, hein, c'est avec les voix. L'enregistrement de voix, moi j'avoue que ça m'a vraiment scotché aussi.
Ouais. Et ça, on peut l'entendre?
Bien sûr, on peut l'entendre, des voix d'enfants.
Te sens-tu bien au même moment où je te parle, pour être sûr que je ne te dérange pas? Je sens vraiment ta présence.
Il y a une médium qui m'a décrit très précisément un homme qui serait décédé, petite quarantaine. Et je suis tombée sur quelqu'un qui est décédé à l'âge de 39 ans. Là, j'ai l'archive. Hein, en 1898, ici. Ça a corroboré, tous les médiums qui sont passés là ont corroboré l'histoire. Et c'est grâce à eux que j'ai retrouvé l'histoire. Moi, j'ai l'impression, quand j'essaie de, quand je repense à tout ça, ou quand on vit des petites choses, et c'est comme si le temps, en fait, n'existait pas vraiment. C'est comme si le passé, des fois, claque, on a une petite scène qui ressurgit, hop, ça... Je veux dire, c'est comme si la mémoire des murs nous livrait quelques trucs, et hop. Mais voilà, je ne me dis pas, oh, aujourd'hui, j'ai vécu un phénomène paranormal, c'est extra. Non, moi, ça, ça a le don de m'agacer, franchement.
Voilà, alors là, on est revenu donc, dans la pièce principale où il va y avoir une expérience d'écriture automatique. C'est comme ça qu'on peut dire.
Donc, Virginie me donne... m'aide pour tout ce qui est... ressenti, message, quand j'ai besoin d'un conseil, etc. Parce que j'avoue que des fois on se dit, mais on est complètement frappadingue, c'est un délire collectif familial, faut arrêter tout ça.
Allez.
Qui écrit alors ?
Paul ou moi.
Là, je décris juste ce qui se passe, il y a votre bras qui donne l'impression d'écrire... guidé par autre chose que vous. En tout cas, c'est pas la façon dont on écrit habituellement.
Voilà.
Est-ce que c'est possible que moi, je pose une question à Paul ?
Oui.
Ben, je vais poser une question à Paul. Je voudrais savoir ce qui se passe quand on est mort. Qu'est-ce qu'il y a après la mort, enfin, après la vie ?
Il dit « Je ne saurais très bien répondre ». Il dit que lui, pour lui, rien ne s'est passé correctement. Il est décédé tout simplement. Il s'attendait à bien autre chose que ça. Et en fait, il s'est retrouvé ici. Et il est coincé depuis ce jour-là.
Paul, pardon, Paul, mais il est seul sans sa femme ou...
Oui, non, il dit je ne souhaite plus parler. Ah. Il vous dit au revoir.
Bon, au revoir, Paul.
Ben, merci, Paul.
Merci, en tout cas,
ça aura été bref, mais bon, quelqu'un décédé.
C'est bien la première fois que je parle à un mort.
Il est parti. Il est parti, c'est mon guide que j'ai là.
Vos questions sur franceinter.fr ou sur le compte Twitter de l'émission Service Public FI.
Et si évidemment Thomas Chauvineau vient vous hanter, eh bien dites-lui que nous attendons son appel. Stéphane Alix, que pensez-vous de ce reportage dans ce château, le château de Fougeray ?
Écoutez, moi je réagis comme je réagis d'habitude, ça fait près de 25 ans que je suis journaliste, donc je réagis en tant que journaliste. Comment est-ce qu'on vérifie ce qui est dit là ? Comment est-ce qu'on croise les choses ? Donc moi, par exemple, je demanderais à un médium que je connais de venir avec moi dans ce lieu, de me dire ce qu'il perçoit, ce qu'il ressent, si éventuellement il communique avec des gens. Je noterais toutes ces informations et j'essaierais de les croiser par ailleurs. Et il y a des moyens parfois de croiser. Quand on ne peut pas croiser, on ne peut pas conclure. Mais quand, par des biais différents, on arrive à avoir les mêmes informations, là, on est en droit de se poser des questions. Et ça, je trouve que c'est intéressant. C'est le début, c'est pas une preuve. C'est le début d'un intérêt pertinent.
Jacques Pécate, vous qui donc animez le cercle spirit, ces phénomènes vous sont familiers ?
Oui, nous avons été amenés à intervenir d'ailleurs dans ce type de cas. Et l'idée qui en ressort finalement, c'est que toute maison hantée l'est par des esprits qui n'ont pas pris conscience de leur mort ou qui sont perturbés, qui ont de gros problèmes avec leur au-delà qu'ils n'ont pas réellement découvert et qui restent à proximité des lieux où ils ont vécu, qui restent proches de nos vibrations matérielles et qui peuvent donc se faire ressentir par les humains qui sont là présents.
Alors nous recevons des mails d'auditeurs qui ne sont pas contents, qui disent que nous sommes en train de faire une émission en faveur des sectes, que nous donnons la parole à personnes qui sont trop irrationnelles pour eux. Et Guillaume Cuchet, justement, ce que vous racontez dans Les Voix d'Outre-Tombe, c'est la réaction française contre le mouvement spirit, mouvement spirit dont vous rappelez également qu'il était à gauche, c'est-à-dire que Allan Kardec et ses spirites étaient proches des mouvements socialistes. Expliquez-nous pourquoi.
Oui, une bonne partie de l'encadrement venait de la gauche. Ce sont des gens qui, généralement, étaient brouillés avec l'Église catholique, soit parce qu'ils avaient eu une formation avec laquelle ils avaient rompu par la suite, soit parce qu'ils venaient eux-mêmes de familles pas très pieuses. Et il y en avait beaucoup après la Révolution française. Hein. C'est-à-dire que, de ce point de vue-là, les gens des années 1820-1830 nous ressemblent un peu, en ce sens que beaucoup n'ont pas reçu de formation religieuse initiale. C'était des esprits religieux, des gens qui avaient une sensibilité religieuse de type romantique, mais qui n'avaient pas de religion dans leur berceau. Et qui, par conséquent, se sont mis à bricoler, comme disent les sociologues aujourd'hui, à se fabriquer des religions, en repartant, moi je dirais, des expériences fondatrices de la religiosité, qui sont principalement le deuil et des questions métaphysiques difficiles à éliminer sur le sens de l'existence. Donc je crois qu'il y a des gens là qui étaient politiquement marqués à gauche et qui ont cherché à inventer des religions qui prennent la place, au fond, des religions défuntes ou prétendues défuntes, de l'époque.
Jacques Pécat, vous êtes à gauche.
Un mot, Allan Kardec, avant de devenir Allan Kardec, avait été un grand pédagogue, un innovateur en pédagogie dans la lignée de Jean-Jacques Rousseau et Pestalozzi. Et pour parler des spirites, justement, de l'époque qui étaient marqués politiquement d'une certaine façon, il faut souligner que la Ligue de l'enseignement du 19e siècle, qui a conduit plus tard à l'école laïque et obligatoire, était essentiellement dirigée par des spirites, Jean Massé, sympathisant spirite, Pierre Galetan-les-Maris, Léon Denis, Gabriel Delalle et quelques autres, qui, eux, ont porté le mouvement de l'éducation et de la culture pour tous. Donc il fallait le signaler.
Et il y a beaucoup de choses. On apprend évidemment énormément de choses dans votre livre, Guillaume Cuchet, Les Voix d'Outre-Tombe. Il y avait une proximité entre ces gens-là et le mouvement franc-maçon, donc entre des rationalistes et des gens qu'on qualifierait aujourd'hui d'irrationalistes. Juste en un mot, Guillaume Cuchet, ces réactions hostiles au mouvement spirit, elles sont très anciennes. On les trouve dans la France du 19e siècle.
Oui, il y a un antispiritisme très virulent. Hein. Le mouvement, à la fois, a eu beaucoup de succès, mais il a suscité des réactions très vives. D'une part, de l'Église catholique, qui a occupé le terrain en relançant la croyance au purgatoire pour essayer de siphonner la clientèle qui faisait le succès du spiritisme. Et du côté de laïque, on s'est beaucoup moqué des spirites. On les a ensevelis de caricatures, d'ironies. Jusqu'à la fin dans les années du Second Empire.
Stéphane Alix, un mot de conclusion. Donc, dans l'Inexploré, votre revue trimestrielle, vous abordez ces questions-là avec une certaine ouverture d'esprit.
Oui, dans le numéro qui sort vendredi prochain en kiosque, un hors-série consacré justement à la nouvelle conscience. Plusieurs médecins, chercheurs parlent des récentes recherches qui permettent de repenser un petit peu le mode de fonctionnement de la conscience. Est-ce que c'est un produit uniquement du cerveau ou est-ce que c'est autre chose? Moi, par rapport au rationalisme, ce serait irrationnel de ne pas s'intéresser à ces questions-là. Et moi, en tant que journaliste, je suis le plus sceptique des sceptiques. Et c'est avec scepticisme et avec rationalité que je m'intéresse à ces questions-là. Et c'est là où les portes s'ouvrent et sont vertigineuses et passionnantes.
Et d'ailleurs, dans le prochain numéro de l'Inexploré, il y a des grands entretiens avec des gens que les auditeurs de France Inter connaissent bien, notamment Pierre Rabhi, preuve qu'il y a des passerelles entre France Inter et l'Inexploré. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. On écoute Charity, Arthur, Béatrice et tout de suite après notre fashionisto Yves Mirande qui revient. C'est le retour du revenant.
All indifference seen too much to call it love. Complete and full of love, built on the evil one. Four place to call all you evil one.
Du consommateur.
Grand public dévoile, développe des collections avec des créatifs de tout poil. Vous avez signalé tout à l'heure des designers de mode, mais aussi des musiciens et même des chausseurs. La maison